pourquoi lisons-nous? Ayons une enquête sur la lecture comme expérience. Frédéric Forté, lire les États-Unis.
Je suis je vais juste dire que on est très heureux d'être ici en compagnie de Frédéric Forté, qui est poète oulupien et qui a une relation très intime avec les États-Unis. Et quand on avait commencé de parler de cette rencontre, on pensait que ça serait intéressant de voir comment on fantasme un pays en traduction et les malentendus qui peuvent surgir. Et on va lire une sélection de textes qui sont assez intimes aussi, qui sont très arbitraires. On est là dans la fondation des États-Unis, dans la petite bibliothèque des années 30, et on voulait juste remercier la fondation de son accueil et également la bibliothèque des Grands Moulins, et qui est une partenaire avec la Maison des écrivains de littérature, ainsi que la radio du. Mais peut-être Frédéric, tu veux dire un mot?
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, mais tu veux que je dise un autre mot peut-être alors? Oui,
peut-être.
Concernant
ce qu'on fait ce soir.
Oui, par rapport à ce que tu as dit, je ne sais pas si j'ai un rapport très, très intime aux États-Unis. Il se trouve que donc je suis poète, que je vis avec une Américaine qui écrit de la poésie aussi. Donc,
Par erreur, je l'ai noté que tous les livres sont d'elle, en fait.
Lui appartiennent. Tu
oui, lui appartiennent.
Des copies.
Oui.
Oui.
Elle nous a prêté sa collection.
On a des bibliothèques séparées, côté bibliothèque en langue anglaise, bibliothèque en langue française. Non, il se trouve que voilà, quand Christopher m'as proposé de participer à cette soirée, il y avait l'idée de la traduction. Et il se trouve que j'ai un petit peu traduit de poésie. Mais quand tu m'as cité comme traducteur, j'ai dit ah non, c'est traducteur occasionnel parce que finalement, les raisons qui ont fait que j'ai traduit de la poésie sont d'ordre divers. Un, vivant avec une poète américaine,
pour mieux Michelle Notbaum.
Notbaum. Je voulais mieux comprendre son travail, donc j'ai traduit une séquence qui s'appelle en anglais Uncaged, d'un livre qui s'appelle Worldkill, et ça a été traduit, donc j'ai traduit ça en français, ça a été publié par les éditions de La Tente, qui est mon premier éditeur à Bordeaux, sous le titre Hors Cage. J'ai traduit un poète américain, un autre poète américain qui s'appelle, alors on devrait dire Guy Bennett, mais lui-même prononce Guy Bennett, il est très francophile. Et parce qu'un jour, voilà, et ça c'est un peu l'autre raison, c'est qu'il y a une tradition de la traduction de poésie entre la France et les États-Unis, entre poètes. C'est un travail de passeur en quelque sorte, et de passeuse. On peut penser à, je sais pas, même au 19e siècle, Baudelaire traduisant Poe. Mais plus proche de nous et que je connais mieux, enfin que je maîtrise un sujet que je maîtrise plus, tous les poètes dans les années 60 qui se sont traduits. Donc je sais pas moi, quelqu'un qui est très important pour moi, un de mes maîtres, Jacques Roubaud, qui est un passeur qui a traduit beaucoup de poésie américaine. Et il y a même, je l'ai pas apporté parce qu'il est un peu gros, mais il y a eu la réédition récemment aux éditions Nous de son livre qui s'appelle Traduire Journal, Traduire virgule Journal, qui est un journal de traduction où il n'y a pas que la poésie américaine, mais il y a pas mal de poésie américaine, de genre de Jack Spicer à Gertrude Stein, en passant par Zukovsky ou des gens moins connus comme Armand Schwerner par exemple, des choses comme ça qui ont permis de faire découvrir la poésie américaine contemporaine, on va dire, en France, sachant que de l'autre côté, le travail a été fait aussi par, je sais pas, Casey Rosemary Waldrop, etc. Donc, il y a toute une histoire comme ça que je trouve passionnante et qui fait, et c'est un peu le sujet un des sujets de ce soir, c'est que je me débrouille en anglais, mais j'ai tendance à lire la poésie américaine traduite par des poètes ou des traducteurs poètes. On va en citer quelques-uns, mais parmi ceux qu'on ne va pas lire, je ne sais pas, des gens comme Yves Dimano, qui est poète, qui dirige la collection Poésie chez Flammarion. Il a traduit beaucoup de poésie. Il a récemment, chez Corti, on trouve des choses, par exemple...
Mais une des choses qu'on avait parlé aussi, c'est le fait que même si on maîtrise bien ces codes culturels, et si on connaît bien la langue et même le pays, il y a toujours ces choses qui s'échappent. Et peut-être on avait prévu de commencer avec Clark Coolidge, mais comme tu as déjà cette expérience assez pratique de tes traductions de Guy Bennett, peut-être je vois que tu as le livre.
Et donc oui, alors juste pour raconter comment ça peut se, pour un traducteur occasionnel comme moi, comment ça peut se passer, un jour, j'avais lu le livre d'un poète italien qui vit en région parisienne, qui s'appelle Andrea Inglese, on se connaissait à peine, un livre venait de sortir aux éditions Nous, et on s'est dit, ah ben, ça serait sympa de se rencontrer. Et il vient à la maison. Et il vient à la maison et il m'apporte Self-Evident Poems de Guy Bennett en me disant, ça devrait te plaire, alors qu'on ne s'était jamais rencontrés. Deux poètes qui parlent d'un troisième poète, en tout cas, un présente. Voilà. Et en effet, je ne connaissais pas Guy Bennett, et puis je commence à feuilleter Self-Evident Poems, et il m'apparaît évident, en effet, que ça me plaît et que j'aimerais que ça existe en français. C'était ça, pour moi, la chose importante. Et à mon renseignant, je m'aperçois que, par exemple, Guy Bennett, avec qui j'ai lu ici même, en février 2016, donc il y a trois ans, Guy Bennett est francophile, a traduit Roubaud, Michel Grangot, qui est une poète de l'Oulipo, mais d'autres écrivains français qui parlent très très bien français, et que lui-même avait traduit quelques-uns de ses poèmes évidents.
Tu veux lire un...
en ligne. Et donc, je le contacte et je dis, j'ai envie que ça existe en français. Comment faire pour que... Est-ce que, même si tu as tout traduit, je peux essayer de trouver un éditeur? Et il me dit, refaisons tout ça ensemble. Donc on a traduit chacun de notre côté, on a fait un travail d'édition, et j'ai trouvé un éditeur. Et depuis, on a fait deux autres livres de Guy Bennett. Donc il y a trois livres... Donc ça, c'est une fierté, pas de traducteur, mais de passeur, de faire en sorte que ça existe. Pour que vous vous fassiez une idée, par exemple, de ce que peut être ce premier livre qu'on a traduit, donc de Guy Bennett, Poèmes évidents. Ce sont des poèmes autodescriptifs, le poème préliminaire. Ce poème est autonome et autosuffisant. Il ne nécessite ni commentaire critique, ni explication d'aucune sorte, pour véhiculer son sens, qui est évident. Ne dépassant pas une page, il convient tout à fait à la publication en revue, comme en anthologie. Il peut se lire d'une seule traite, et n'éprouvera pas outre mesure le lecteur ou l'auditeur, car il n'a besoin, ni ne profite d'aucune réflexion excessive d'après-lecture. Alors, au départ, c'est comme ça, tout est très...
Est-ce que tu as la copie en anglais ? De ce livre?
Bien sûr, il est là.
Je peux.
Bien sûr.
C'est lequel?
Ça, c'était le tout premier. Hein,
d'accord. Pour les... bah, si je me permets, je vais lire juste en écho à toi. Et on peut voir aussi ces décalages, parce que pendant toute la soirée, l'idée, c'est aussi de voir ces petites... je ne sais pas que fait que c'est une transformation ou une sorte de shift dans sa manifestation dans une langue ou dans une autre. Du coup...
Shift, vous voyez, c'est bon.
Preliminary poem. The poem is self-contained and self-sufficient. It does not require critical commentary or explanation of any kind to convey its meaning, which is self-evident. It does not exceed a single page and thus appropriate for publication in magazines and anthologies. It can be read in a single sitting and will not unduly tax the reader or listener and is neither necessitates nor benefits from excessive post-reading reflection. Mais ce soir, c'est tout ce qu'on va faire, en fait.
Oui, mais là, justement, si pour poursuivre, par rapport à ce que tu disais sur la question des décalages culturels, là, on voit bien qu'a priori, de décalage culturel, il n'y en a pas. Justement, c'est le. Et en fait, c'est tout l'enjeu de ce livre, c'est qu'il pousse ce jeu de self-reflexive, enfin self-evident poème, assez loin. Je vais vous lire un poème qui s'appelle. Alors, il n'est pas dans la. Alors, il y a plus de choses.
Ah oui.
Et oui, parce qu'on a rajouté des post-self-evident poems. Et il y a un poème, mais bon, qui a à voir là avec la culture. Américaine, enfin en tout cas, c'est un livre qu'il a écrit dans les années sous W. Bush, donc il parle de ben, si on peut en parler, allez, on va en prendre un plutôt qui se retrouve, que tu peux lire en anglais. Et justement, culturellement, ça nous dit pas tout, ça nous parle des États-Unis, ça nous dit pas exactement la même chose à nous, enfin à nous, je sais qu'il y a des Américains dans la salle, mais un peu à un lecteur français qu'à un lecteur américain. Je pense par exemple à. Allez, on va prendre. Poème, une série de. Je vais vous en lire deux. Poème pro-life. Donc, pro-life, tout le monde sait ce que c'est. Hein, c'est anti-avortement. Pour mener à bien ce poème, il serait bon de savoir, la vie des Afghans et des Irakiens compte-t-elle ou parle-t-on seulement d'enfants américains pas encore nés? Et. Poème pro-war, pro-life. Comme le démontre finement ce poème, en dépit des principes fondamentaux de la logique, de la raison et du bon sens élémentaire, il est effectivement possible d'être à la fois pro-war et pro-life.
Mais c'est intéressant, pas juste les décalages culturels, mais aussi comment les slogans. Et le marketing s'infiltre dans le langage politique parce que, comme tu disais en anglais ou en français, on est anti-avortement, mais par contre, aux États-Unis, on est pour la vie si on est contre l'avortement. Je voulais te demander aussi, parce que je me souviens quand tu traduisais ce livre, tu l'as traduit, c'est pas juste une traduction de la culture contemporaine états-unienne, mais tu l'as fait d'une manière assez contemporaine aussi. En relation assez étroite avec Guy Bennett.
Oui, il est vivant, donc autant en profiter. Et puis, en plus, il, on l'a traduit ensemble, parce qu'il est
mais
vraiment très
bon. Pendant le temps que tu le traduisais, toi, tu étais à Paris et lui était...
À Los Angeles.
Oui. Ouais.
Et d'ailleurs, il a pu modifier, ce qui est intéressant, c'est de modifier des textes en disant, ah, mais tiens, je vais l'améliorer, je vais changer ça. On l'a fait sur d'autres ouvrages, parce que celui-là est publié, mais les deux suivants que j'ai dans mon sac, là... qui s'appelle ce livre en français, en anglais, This Book est inédit, et Nearly Actualized Works, qu'on a traduit œuvre quasi complète, est inédit aussi en anglais. Donc, c'est une manière aussi de faire exister les textes étrangement, puisqu'ils existent dans une deuxième langue avant d'exister dans leur prime langue, en quelque sorte. Mais
je pensais plutôt le fait que quand tu traduisais ce livre, tu le faisais aussi dans le real time. C'était ou pas, il y avait des moments où lui, c'était assez tard. Et, du coup, et pour toi, c'était...
Ça, on l'a fait. On l'a pas fait pour celui-là précisément, mais on l'a fait pour les suivants où on traduisait, vous savez, on utilisait un outil moderne, Google Doc. Et quand vous avez un document, mais vous voyez tous les intervenants, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué ce genre de choses, vous voyez tous les intervenants, si on est deux, on a chacun notre petit curseur avec notre couleur à nous, enfin, moi c'est rose et lui c'était vert, je ne sais pas, et on voit ce que l'autre modifie, et puis il y a la petite boîte de chat, de conversation, en disant, hey, tu, qu'est-ce que tu penses de ça? Regarde, clac. Ou alors on regarde où est le curseur de l'autre, ah, il est en train de travailler sur ça.
Mais voilà, c'était très intéressant. Ce décalage, même en parce que là, ce n'est pas un décalage entre les langues, mais dans le temps, dans l'espace, et aussi que le texte, j'imagine, peut produire d'autres choses avec la vie directe du poète.
Oui, là, c'est un peu un plaisir de traducteur, encore une fois, très occasionnel pour moi, mais de travailler très précisément sur le texte de quelqu'un d'autre, que je n'ai pas écrit, que j'essaye d'aider de la manière qui me semble la plus juste possible.
D'accord.
Et en même temps, tout ça en dialogue avec l'auteur. C'est-à-dire que c'est pas juste... ça doit être quelque chose de différent de traduire, je sais pas moi, un auteur ben, qui n'est plus là,
oui.
Mais quand on, ou même quelqu'un qui ne souhaite pas forcément dialoguer, mais là on co-traduisait, donc c'est vraiment passionnant de ce point de vue-là, en termes de regard. Et là, culturellement aussi, on voit les décalages. Oui. Et comment on traduit ? Là, on est sur des choses assez évidentes justement, mais dans d'autres textes, qu'est-ce qu'on traduit ? On verra tout à l'heure si on partage ouais, sur
peut-être
le.
Peut-être on passe au Bergen. Et si toi, tu veux lire un premier poème en français.
Oui, donc on a choisi quelques livres. En fait, on en avait pris plus, mais
oui.
C'était peut-être une manière de, voilà, de donner des exemples. Et en plus, c'était pour moi une manière de parler de traducteurs. Là, un traducteur français qui vit à Paris actuellement, qui est poète également, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Martin Richer, qui fait un travail, justement, j'ai parlé des défricheurs de la poésie américaine en France dans les années 60, 70, etc., aujourd'hui, il fait un travail remarquable. Vous avez, là, je sais pas, je suis en train de lire, par exemple, traduit par Martin Richer, Le sang sur le sol de la salle à manger, de Gertrude Stein, Blood on the floor of the dinner room, je crois. Ça, c'est un texte, un roman de détective de Gertrude Stein, son roman de détective. Bon, on ne sait pas vraiment s'il y a un crime, et on ne sait pas s'il y a un criminel, mais c'est Gertrude Stein, quoi. Et donc, c'est Martin qui l'a traduit. Et là aussi, c'est Les sonnets, donc c'est un livre fameux de la poésie américaine des années 60, de Sonnets de Ted Berrigan. Là, dans l'édition française, c'est Jocaseria, c'est la collection américaine que dirige Olivier Brossard, qui fait partie de l'équipe Double Change avec Vincent Broca, Abigail Lang, d'autres également, et qui font un gros travail de passage, justement, de passeur. Et donc, je me suis dit, puis j'aime les sonnets, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et les sonnets de Ted Berrigan sont très particuliers. Il y a d'ailleurs une postface de Jacques Roubaud qui explique en quoi ces sonnets sont, enfin, de diverses manières particuliers. Et je vais peut-être donc vous lire un sonnet qui est. Ben, on va vous lire. Christopher ne lira pas la traduction. Il lira un autre, mais qui fait écho à ce sonnet-là. Donc là, c'est le sonnet 15. Dans le collage de Joe Brainard, la flèche blanche, il n'y figure pas, feu le docteur affamé. De Marilyn Monroe, ses dents blanches blanchies, je suis vraiment horriblement troublé parce que Marilyn, et j'ai mangé du pop-corn de chez King Corn, écrit-il dans son de verre dans le collage de Joe Brainard. Docteur, mais il déclare « I love you » et le sonnet n'est pas mort. Détourne les yeux des mots gris, journal, le cœur noir à côté des 15 morceaux. Monroe est morte, alors je suis allé au ciné voir une série B, à la chaux par les mains tremblantes de Joe. Aujourd'hui, il figure toutefois 16 images déchirées. Ne désigne pas William Carlos Williams.
Et là, je vais lire le sonnet 59. In Joe Brainard's college, its white arrow does not point to William Carlos Williams. He is not in it, the hungry, dead doctor. What is in it is 16 ripped pictures of Marilyn Monroe, her white teeth whitewashed by Joe's throbbing hands. Today, I am truly horribly upset because Marilyn Monroe died. So I went to a matinee B-movie and ate King Kong popcorn, he wrote in his diary. The black heart beside the 15 pieces of glass in Joe Brainard's collage takes the eyes away from the gray words, doctor, but they say, I love you, and the sonnet is not dead. Et ce livre, c'est aussi a été dédicacé à Joe Brainard. Et je pense que c'est peut-être plus difficile d'entendre ces correspondances mais, entre le français et l'anglais. Mais il reprend. C'est, en fait, le livre, c'est un collage des sonnets aussi.
D'ailleurs, je viens de remarquer, donc là, le sonnet 59 que vient de lire Christopher en anglais, donc on dirait que les vers sont dans l'ordre, a priori, par rapport à ce que je vous ai lu, où les vers sont recollé dans le désordre. Mais je ne pense pas que ce soit une erreur parce que dans le sonnet 59, il y a 15 morceaux. journal Le Cœur Noir à côté des 15 morceaux. Et dans celui que j'avais lu, il figure toutefois 16 images déchirées. Voilà. Ah, maintenant, c'est le. Oui, d'accord, c'est moi qui extrapole. Mais tout ça pour dire que, en fait, ce que fait Ted Berrigan dans ce livre de sonnets, c'est qu'il s'auto-prélève souvent. Il y a des vers qui reviennent à des moments. C'est quelque chose d'assez, d'assez étonnant. Et en même temps, bien sûr, c'est lié à. Là aussi, puisque sur la question des États-Unis fantasmés ou qui arrive à un lecteur français comme moi, par exemple, par le filtre de la traduction, on a là toute une époque, une culture, Bret Hart, bon, des références, voilà, William Carlos Williams, etc. Et c'est une manière de toucher à quelque chose, mais c'est comme s'il y avait déjà l'écriture poétique, c'est déjà un filtre, ça filtre une. En tout cas, le monde du poète, tel qu'il le perçoit, il est traduit, c'est un autre filtre. Et puis, il y a la réception, bien sûr, d'un lecteur qui a ses propres représentations de la culture américaine. Et donc, ça vient rajouter encore une sorte de... Alors oui, de fantasmagorie, de fantasmatique, ou de shift, comme tu disais, de glissement. Oui.
Mais même pour un lecteur et lectrice états-unien, ou même de l'époque, parce que le New York School, c'était une école assez fermée sur elle-même, mais il y avait des références précises culturelles, que c'était vraiment... Il y avait le « in » et le « but ». Il y a tous ces mots un peu... ou ces mots des noms propres qui réfèrent à des personnes... et des événements culturels, mais je trouve que on peut penser aussi la traduction comme une sorte de décalage, un décalage dans le temps. Toi, tu parlais des filtres, mais c'est cette... peut-être on peut passer au Rombo pour...
Et d'ailleurs, tu pourrais peut-être aussi le lire, là, pour le coup, parce que je pense que ça vaut le coup. Je ne sais pas comment... Tu peux le lire en premier?
En anglais, oui.
Ouais. On voit le...
Alors, c'est le poème 70, After Arthur Rimbaud. Sweeter than sour apples, flesh to boys. The brine of brackish water pierced my hulk, cleansing me of rot gut wine and puke, sweeping away my anchor in its swell. And since then, I've been bathing in the poem. Of the star, steeped, milky, flowing mystic sea, devouring great sweeps of azure green, and watching flotsam dead men float by me, where, dying all the blue, the maddened flames and stately rhythms of the sun, stronger than alcohol, more great than song, fermented the bright red bitterness of love. I've seen skies split with light and night and surfs, currents, waterspouts. I know what evening means and doves, and I have seen what other men sometimes have thought they've seen.
Plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusée d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts où, flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend. Où, teignant tout à coup les bleuités délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs et les trombes et les ressacs et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir.
C'est une poème très différente des autres sonnets qu'on vient de lire.
Oui.
Et c'est, y a cette dédicace aussi qui l'introduit. Mais ce que tu notais que... qui n'est pas du tout le cas dans l'anglais. Et je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais c'est que dans la version française, c'est écrit en alexandrin.
Oui, ce sont des Alexandrins. Mais en fait, je suis en train de me demander, j'avoue que j'aurais dû me renseigner, mais est-ce que ne serait-ce pas un poème de Rimbaud, mais je ne suis pas sûr, un sonnet de Rimbaud que je ne connaîtrais pas. Ou en tout cas, si c'est le cas, c'est que le poème de Berrigan est une traduction.
Ouais, c'est d'après.
Et si ce n'est pas le cas, c'est que Martin s'amuse à réinventer du Rimbaud, mais j'avoue, là, une lacune. Moi, je ne connaissais pas, alors ça ne vous dit rien. Ça sonne comme du Rimbaud. Oui, mais je n'ai pas l'impression que ce soit... Je vais référer, je vais vous dire. Donc là, c'est le passage contraire, bien sûr. C'est comment dans la poésie américaine des années 60, la poésie française du 19e siècle vient nourrir le poète.
Mais ce que je... Peut-être de pousser un peu loin ce qu'on vient de dire, et aussi avec le collage, le décalage, dans ce processus de mutations différentes, on peut penser à la traduction comme une sorte de collage, que ces poèmes, ces sonnets qui reprennent des morceaux, des fragments les uns des autres, se traduisent aussi comme entre le 15 et le 59. C'est pas juste les mots qui se reprennent d'autres d'ordres et d'autres formes, mais que cette récombinaison, c'est aussi une forme de traduction et c'est quelque chose que tu travailles dans ton travail de poète ou le pien aussi.
Oui, dans la dimension combinatoire, c'est vrai que là, dans les deux sonnets qu'on a lus au départ, bien sûr qu'il y a reprise intégrale des 14 vers, donc on a vraiment cette dimension-là, mais avec l'idée de collage qui est un hommage en soi, le fait de faire un collage, c'est un hommage à Bernard, oui. Donc c'est un acte. Ce qui se passe aussi mais qui est intéressant dans les sonnets de Ted Berrigan, c'est comment des vers qu'il a utilisés à un moment donné, il les réutilise, parce qu'il se dit que c'est ce qu'il faut, c'est un écho. C'est des choses qu'on va retrouver dans ce qu'on va vous lire après de
Hedginian.
Mais oui, après, bon, on peut donner un sens très large au terme de traduction. On se traduit tout. Voilà, il y a aussi cette question-là. C'est ce qui est un peu, pour moi. Fascinant, c'est qu'il y a un rapport privilégié, je trouve, entre la. Même s'il y a. Bien sûr, en français, les poètes français traduisent d'autres poètes que les poètes américains, d'autres langues. Mais il y a ce rapport un peu, en tout cas dans la poésie qui, moi, m'attire en français et en anglais, et notamment en anglais de l'américain. C'est une sorte de rapport privilégié, des passerelles qu'on peut tisser. Il y a plein de. D'ailleurs, il y a plein de choses au sens. Tous les jours contemporains, des lectures bilingues. Je sais qu'il y en avait une hier soir, je vois qu'il y a Lisa Passold qui est là, mais il y avait une lecture bilingue. Ça, c'est les lectures Ivy Writers, double change. Je fais des lectures bilingues une fois par mois également. Donc, il y a une vie très active de ces échanges, de cette traduction. C'est quelque chose qui dure, qui a une histoire, en fait. Et que... Pour quelqu'un comme moi qui suis... Mon anglais me permet de lire maintenant de la poésie, mais il y a, vous voyez, c'est comme un vers très dépoli, surtout quand la poésie, on va le voir avec Clark College, quand la poésie est très dense et très, très mystérieuse, on rajoute du mystère sur du mystère avec... Est-ce qu'un lecteur comme moi se pose la question, est-ce que j'ai les bonnes références culturelles ? Qu'est-ce qui m'échappe ? Qu'est-ce qui m'échappe qu'un Américain ou un anglophone verra aussitôt ? Les codes culturels, le niveau de langage, le jeu de mots, tout ça, c'est assez fascinant. Et j'espère quand le travail de traduction en poésie, c'est aussi d'essayer de rendre ça. Ça me fait penser juste, je vois que tu voulais intervenir, mais non, je t'en empêche. C'est quelqu'un que j'aimais énormément, qui était un ami, qui est Bernard Höpfner, qui est un très, très grand... traducteur de l'américain, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans, et il a traduit, et je l'ai connu grâce à la traduction, parce qu'il a traduit quelques-uns des romans de Gilbert Sorrentino, qui est un romancier et poète aussi, mais surtout romancier américain. Il est mort en 2006, il a fait une vingtaine de romans, il a une œuvre, donc un romancier new-yorkais très... très, très passionnant, très, très unique, et que moi j'aime énormément. Et je l'ai découvert grâce aux traductions de Bernard Höpfner, et notamment la traduction de son roman le plus fameux qui s'appelle Mulligan's Two, qui a été traduit en français par Salmi Gondi, qui est paru aux éditions 100 pages. Et j'ai eu des discussions, et justement, je suis devenu ami avec Bernard suite à ça. C'est lui qui avait traduit également, pour vous donner une idée, Anatomy of Melancholy de Robert Burton, un ouvrage du XVIe siècle sur une sorte des prémices de la psychologie. C'était quelqu'un de très érudit, Bernard. Et il m'expliquait comment il devait traduire. En plus, il y avait des contraintes, des choses codées, par exemple. Comment vous traduisez un texte qui est bourré de références au baseball dans une culture qui ne connaît pas vraiment le baseball. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait, le traducteur? Qu'est-ce qu'il abandonne? Qu'est-ce qu'il transpose? Qu'est-ce qu'il garde tel quel, quitte à ce qu'on ne comprenne rien? Voilà, c'est tout ces jeux-là.
Mais je pense que ce n'est pas juste une question d'anglophone ou francophone, parce que justement avec ce poème de Carl Coolidge qu'on va voir tout à l'heure en fin de séance, il y avait un jeu de mots qui, pour comprendre, il fallait avoir une référence culturelle que tu avais, et moi, je ne l'avais pas.
C'est encore on demandera si ça semble être un jeu de mots à tout le monde. Mais...
Oui, on verra. On passe à l'ingénieur. Mm-hmm. Parce que là encore, parce que pour peut-être réintroduire le lien qu'on peut avoir entre le Ted Bergen et le Hingegenian. Là, ce n'est pas une question de collage, mais c'est quand même une question d'écho des mémoires aussi qui sont intégrées ou qui sont formatrices, mais qui revient au fur et à mesure dans sa vie. Il y a ces petites phrases qui...
Par exemple, oui, c'est-à-dire que My Life, traduit donc ma vie, c'est un livre que Lynn Ingenian a écrit à 45 ans. Il y a 45 textes avec 45 phrases, constitués donc 45 chapitres constitués de 45 phrases à chaque fois. Mais si quand on le lit, on se rend compte que le premier chapitre, le premier texte renvoie à sa première année. Deuxième à sa deuxième année, etc. Enfin, il y a une progression. On voit bien qu'elle parle de l'enfance et puis on voit l'évolution, l'adolescence, l'âge adulte, la vie de jeune étudiante, de jeune écrivain, les enfants, etc. Et ce qu'elle fait qui est très beau, c'est qu'elle, certaines de ces 45 phrases, enfin de ces phrases qu'on trouve dans un chapitre, sont ensuite, on les retrouve régulièrement. Pour moi, je l'explique comme un. Des images, des souvenirs de la prime enfance, une image un peu comme séminale, un peu fondatrice, comme ça, qui reste quelque chose qu'on a en nous, comme une photo, une photographie, et qui revient au fil des ans, parce que, bien sûr, on peut espérer qu'on n'oublie pas les années qu'on a passées. Et donc, et en même temps, on est dans la vie, dans le présent. Donc, on est dans le présent, et en même temps, le passé, en l'occurrence, c'est une poète, par les phrases, ici, revient comme... Voilà, comme si, ouais, faut dire, oui, il y a un fil qui se tient, il y a des souvenirs, des choses qui perdurent. Et c'est très beau. Et donc là, aussi, c'est un autre exemple. Donc là, c'est traduit par, alors je connais un peu l'histoire, c'est Abigail Lang, dont j'ai parlé, qui fait partie de l'équipe Double Change. Et ensuite, il y a un trio et un duo de traducteurs, Maï Théry et Nicolas Pesquès. Nicolas Pesquès est un poète également, avec Maï Théry. Maï Théry. Ils ont traduit je ne sais plus quel poète américain, mais ils se sont aperçus à un moment donné qu'ils avaient envie de travailler sur les mêmes choses, et donc ils ont mis en commun leur travail. Voilà.
Et je voulais juste ajouter qu'il va intervenir pour la prochaine séance avec Franck Lebovici le 28 janvier, comme Claire disait en début de rencontre. Mais peut-être on lit. Moi, je vais commencer en anglais. Avec sa deuxième année. Et Fred, il va reprendre son... Je ne sais pas quelle année.
Ouais, elle est adulte, à l'âge adulte.
As for we who love to be astonished. You spill the sugar when you lift the spoon. My father had filled an old apothecary jar with what he called sea glass. Bits of old bottles rounded and textured by the sea, so abundant on the beaches. There is no solitude. It buries itself in veracity. It is as if one splashed in the water, lost by one's tears. My mother had climbed into the garbage can in order to stamp down the accumulated trash, but the can was knocked off balance. When she fell, she broke her arm. She could only give a little shrug. The family had little money, but plenty of food. At the circus, only the elephants were greater than anything I could have imagined. The egg of Columbus, landscape and grammar, she wanted one where the playground was dirt with grass, shaded by a tree, from which would hang a rubber tire as a swing. And when she found it, she sent me. These creatures are compound, and nothing they do should surprise us. I don't mind, or I won't mind, where the verb to care might multiply. The pilot of the little airplane had forgotten to notify the airport of his approach, so that when the lights of the plane in the night were first spotted, the air raid sirens went off, and the entire city on that coast went dark. He was taking a drink of water, and the light was growing dim. My mother stood at the window watching the only lights that were visible, circling over the darkened city in search of the hidden airport. Unhappily, time seemed more normative than place. Whether breathing or holding the breath, it was the same thing, driving through the tunnel from one sun to the next under a hot brown hill. She sunned the baby for 60 seconds, leaving him naked except for a blue cotton sunbonnet. At night, to close off the windows from view of the street, my grandmother pulled down the window shades, never loosening the curtains, a gauze starch too stiff to hang properly down. I sat on the windowsill, singing Sunny Lunny Tina, Ding Dang Dong. Out there is an aging magician who needs a tray of ice in order to turn his bristling breath into steam. He broke the radio silence. Why would anyone find astrology interesting when it is possible to learn about astronomy? What one passes in the Plymouth, it is the wind slamming the doors. All that is nearly incommunicable to my friends, velocity and throat, verisimilitude. Were we seeing a pattern or merely an appearance of small white sailboats on the bay, floating at such a distance from the hill that they appeared to be making no progress? As for once to a country that did not speak another language, to follow the program of ideas or that particular line of reasoning so full of surprises and unexpected correlations was somehow to take a vacation. Still, you had to wonder where they had gone, since you could speak of reappearance. A blue room is always dark. Everything on the boardwalk was shooting towards the sky. It was not specific to any year, but very early. A German goldsmith covered a bit of metal with cloth in the 14th century and gave mankind its first button. It was hard to know this as politics, because it plays like the work of one person, but nothing is isolated in history. Certain humans are situations, as your fingers in the margins. Their random procedures make monuments to fate. There is something still surprising when the green emerges. The blue fox has ducked its head. The front rhyme of the harmless with harmony. Where is my honey running? You cannot linger on the lamb. You cannot determine the nature of progress until you assemble all of the relatives.
Et donc, un texte plutôt vers la fin, donc elle a une fin d'une trentaine, bonne trentaine d'années, presque 40 ans, qui s'intitule « Je ris comme si mes casseroles étaient propres ». Sachant que les titres sont aussi des phrases qu'on retrouve dans d'autres textes. Et en fait, sur ces questions de phrase, c'est le souvenir, mais il y a aussi un effet performatif de déjà-vu, une impression de déjà-vu, puisque la première fois où une phrase revient, vous dites « Ah, mais je l'ai déjà lu cette phrase ». Et c'est très, très, très subtil. Même les enfants s'en souviennent comme d'une année dans les quartiers pauvres, en plein bouleversement, où les orateurs en minibus incitaient au vol. Poulet à s'en lécher les doigts. Clichés et lamentations. Nous poussions cette logique dans un milieu fluctuant. Je veux me libérer de toi pour faire des choses importantes qui t'impressionneront, t'attireront, pour que tu puisses être à moi et moi à toi, pour toujours. La pointeuse reprit, leurs esprits à la tâche. Et les intervalles se mirent à coller. L'évidente analogie est avec la musique. Si tu ne l'as pas payé, est-ce volé ? Peux-tu faire des cercles en courant autour du pâté de maison ? Parfois, anticipant une sorte de culte de l'absence dont elle était l'équivalent rural, j'étais attiré par l'énorme carcasse vandalisée de la distillerie à l'abandon et j'en faisais le but de mes promenades avec la chienne qui s'échappait seule de notre entrepôt à moitié habitable et disparaissait souvent à la fourrière. Ce pauvre chien, c'est Puceville. Tout ne pousse pas dans une jungle. La rose et sa couleur qui boucle, les brasses du baigneur dans l'océan. Je sais tout plein de mots, mais pour certains, je dois les réapprendre sans cesse, de 2 à 6 lettres à la fois. Quant à nous, qui aimons être surpris, qui était le titre du texte avant, ça ressemble plus à accablant qu'à cabane d'âne. Je redis cela, celle qui, le disant, s'applique à elle-même cette décennie prématurément démoralisée. Il y a différents 2, mais un seul salaire minimum exaspérant. Voyons le programme de l'eau de rose à profusion un jeudi soir. Que ça marche avec un seul mot. Oui. Mon français était nul. Elle appelait le pigeon un rat à plumes. Un parent lointain, plus mort que vif, était devenu un ancêtre après avoir été le garde du corps de George Washington. Une telle nouvelle est comme une rumeur et parente de l'air. Ils découvrirent qu'ils étaient nés le même jour. Les lettres symétriques de l'alphabet. Un enfant est une vraie personne, très vive. Ils sont comme des oiseaux dodus le long du rivage qui regardent claquer les drapeaux du coin. C'est le sel de la mer dans nos veines. Juste une goutte dans la tasse. Un miroir renverse. La forme générale tend tout naturellement à grandir sous la main qui l'écrit, mais tant qu'une chose n'est pas achevée, elle a besoin d'être expliquée. Le dictionnaire offre une vision du monde. Le dictionnaire bilingue offre une vision du monde, le dictionnaire bilingue la redouble, en offre 2. La communauté est une forteresse, nous commençons à le présager. On hausse les épaules, mais on en a à cirer. Les enfants ont fabriqué une espèce de teckel avec des ballons, et ce monstre de ballon a éclaté dans mes pensées. Il m'a regardé dans les yeux et m'a passé le vin. Il n'y a pas d'air sur la lune pour porter la parole. Est-ce violent ou violon ? À travers les murs, nous avons les trous de cette forme de société qu'on appelle foyer. Dans la ville, il n'y a que 4 directions pour une promenade. Il semblait que nous avions à peine commencé et nous étions déjà là à observer les gens un moment encadrés dans les fenêtres, sans jamais savoir ce qui leur arrive ou ce qu'ils signifient. Les ballons de pensée sont plus doux que les ballons de mots. L'air que nous respirons, rangé par ordre de taille, contient des flocons de son, d'obscurité, de silence et de lumière.